Le journal de l'économie sur Radio Classique avec Dimitri Pavlenko.
Un bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique. À la une ce matin, eh bien pas de changement donc sur le front du Covid. Confirmation hier soir de Jean Castex, la France va rester confinée au-delà du 1er décembre. Seule une réouverture des commerces est envisagée dans 15 jours, mais ce à condition que la baisse des cas à l'hôpital se poursuive. Symboliquement, l'exécutif a accordé la vente de sapins de Noël en extérieur. Jean Castex promet aussi de tout faire pour sauver les petits commerces. Le soutien de l'État va donc rester massif en ce qui concerne le chômage partiel, le fonds de solidarité ou encore les exonérations de charges. À Bercy, Bruno Le Maire promet en outre de muscler l'aide fiscale pour les bailleurs. Ah, le sujet des loyers est crucial pour les entreprises. C'est le deuxième poste de dépense après les salaires. Le crédit d'impôt, donc de 30%, semble-t-il, n'était pas assez incitatif. Il va passer à 50%, mais ce ne sera que pour les entreprises de moins de 250 salariés et encore un effet de seuil. Alors une ville a décidé d'aller encore plus loin sur ce sujet des loyers, c'est Douai dans les Hauts-de-France. Là, c'est carrément l'agglomération qui va prendre en charge les loyers des petites boutiques ou des artisans fermés pendant la durée du confinement. Écoutez Christian Poiret, c'est le président de l'agglomération du Douaisis.
Aujourd'hui, ce que je veux simplement, c'est garder les commerces en vie. Donc, il y a des aides de l'État, ok ? Il y a un trou dans la raquette pour moi, c'est le loyer. C'est une enveloppe environ de 500 000 euros par mois minimum. Il n'y a pas de souci. Nous avons des recettes. Vous savez, une agglomération comme la nôtre a 20 parcs d'activité. Et un entrepôt Amazon, c'est bien sûr de la richesse pour le territoire. Amazon paye ses impôts et cet argent qui soit utilisé, mais pas uniquement Amazon, je veux dire, mais tous les investisseurs que nous avons sur le territoire, qui soit utilisé pour sauver le commerce, ça me paraît tout à fait évident.
Christian Poiret, le président de l'agglomération du Douaisis. Alors pour les actifs, la consigne reste la même, télétravail au maximum. Dans la fonction publique, 40% des agents travaillent depuis chez eux, assure ce matin dans les Échos Amélie de Montchalin. 40% hors police et éducation nationale, bien sûr. En revanche, c'est plutôt mal parti pour un accord national interprofessionnel sur ce sujet du télétravail. Les partenaires sociaux ont annulé la deuxième séance de négociation qui devait avoir lieu aujourd'hui. Le télétravail qui parfois produit des effets imprévus. C'est le cas par exemple dans les salles de marché placées en télétravail par leur banque employeur. Les traders ont massivement adopté la messagerie grand public cryptée WhatsApp pour échanger des informations, parfois hautement confidentielles. Alors en principe, c'est interdit par les autorités de régulation, comme en France l'autorité des marchés financiers. Et les banques ont bien du mal à faire respecter la loi. Céline Cajoulis.
Le journal de l'économie sur Radio Classique.
Petit problème de diffusion de notre élément qu'on réécoutera un petit peu plus tard. On va passer au sujet suivant. Quand changer d'assurance emprunteur relève du parcours du combattant, l'association de consommateurs UFC Que Choisir a lancé hier à Lyon une action en justice contre la banque LCL pour entrave à la concurrence. L'association a recueilli plus d'une centaine de plaintes de consommateurs qui se sont heurtés à des blocages au moment de changer d'assurance emprunteur. Émilie Vallès.
Aujourd'hui, un particulier peut changer d'assurance emprunteur librement la première année, puis à chaque date anniversaire du contrat. La banque a 10 jours alors pour répondre à la demande. Or, LCL fait de l'entrave selon Gaëtan Dupin de l'UFC Que Choisir.
La banque prend plusieurs mois, voire plus d'un an pour répondre à ses clients, ce qui est tout simplement illégal. Le client qui souhaite changer d'assurance emprunteur ne le peut tout simplement pas parce qu'il a besoin d'une réponse de la banque et il reste captif. Après, il y a des abus généralisés de la part de toutes les banques parce que c'est un domaine qui rapporte énormément aux banques.
Une loi devait faciliter ces résiliations et permettre que cela se fasse sans aucune contrainte. Mais elle a été rejetée fin octobre. C'est une opportunité manquée, se désole Astrid Cousin, porte-parole de Magnolia.fr, comparateur en assurance de prêt.
Ça aurait permis de décomplexifier totalement la législation de l'assurance de prêt. C'était surtout un gain de pouvoir d'achat énorme. L'assurance de prêt, c'est un marché qui est détenu à 85% par des banques qui pratiquent des tarifs 2 à 3 fois supérieurs à la concurrence. On a estimé que c'est à peu près 3 millions d'emprunteurs concernés et 3 millions d'emprunteurs qui changent d'assurance de prêt. C'est 7 milliards d'euros de pouvoir d'achat redistribués.
De son côté, le comité consultatif du secteur financier indique, lui, que 10 ans après la libéralisation du secteur, la concurrence fonctionne et que les tarifs ont baissé.
Voilà, 7 milliards à récupérer pour les Français si on libéralisait totalement l'assurance emprunteur, ça fait rêver. Alors revenons à notre sujet du télétravail et à ses effets imprévus dans les salles de marché à propos des traders qui utilisent massivement cette messagerie WhatsApp plutôt que de passer par les canaux habituels du fait des difficultés du confinement. Écoutez le reportage de Céline Cajoulis.
La règle dans dans une salle des marchés sait que toutes les conversations téléphoniques sont enregistrées pour éviter les fraudes. Pour la banque, c'est une garantie que rien d'illégal n'est fait. Mais avec une messagerie cryptée comme WhatsApp, c'est impossible. Jérôme Billois, du cabinet Wavestone.
L'utilisation de messagerie instantanée et très sécurisée, finalement, représente un risque parce qu'il n'est pas possible de suivre les conversations des traders et que ça peut donner un sentiment, quelque part, d'impunité qui peut amener à des fraudes, à de l'entente entre acteurs sur le marché, à de la révélation de secrets qui, derrière, peut avoir un impact et bien sur le cours des actions et des différents marchés.
Alors, pour contourner le problème du cryptage des conversations, la fintech californienne Symphony, créée par un Français, a développé un système qui permet de sécuriser les échanges. David Curlet, PDG de Symphony.
Nous permettons une connectivité sécurisée avec WhatsApp en permettant à nos utilisateurs donc, d'avoir cette communication interactive, mais aussi l'enregistrement de cette communication afin de faire la conformité pour les règles de surveillance des salles de marché.
Un produit qui a tellement séduit les banques comme JP Morgan, Goldman Sachs et BNP Paribas qu'elles sont même entrées au capital de la fintech.
L'actutech justement, avec un nouveau conflit social en vue, peut-être chez Amazon, Sud et la CGT réclament des contreparties au surcroît d'activité pendant le confinement. Augmentation de 2 euros brut de l'heure, une prime de 1000 euros. La CFDT veut, elle, l'embauche en CDI de 1500 intérimaires et l'arrêt des envois depuis les entrepôts situés à l'étranger. Sud et la CGT appellent par ailleurs à la grève. Les week-ends obligatoires mis en place pendant le pic de la fin de l'année. Airbnb lance, lui, la chasse aux fêtes clandestines. La plateforme de location touristique annonce avoir bloqué 30 000 réservations en France entre mi-août et mi-septembre. Par ailleurs, dans le prochain budget, l'Assemblée nationale a voté hier soir la possibilité pour les villes d'augmenter la taxe de séjour pour les locations de meublés touristiques. L'an dernier, Airbnb avait ainsi reversé un total de 58 millions d'euros à quelques 28 000 villes. Et puis de nouveaux nuages pour Google en Europe. Une large coalition d'acteurs du e-commerce viennent d'écrire à Bruxelles pour dire à la Commission que Google continue d'abuser de sa position dominante dans le search. Bonjour Eric Mauban.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous.
Alors le search, c'est la recherche sur Internet. Google avait pour cela écopé déjà de près de 2,5 milliards d'euros d'amende il y a 3 ans. Rien n'a changé depuis, semble-t-il.
Voilà, alors pour faire bonne figure, Google a mis en place en septembre 2017 un système qui se veut correctif, en complément de ses algorithmes, et bien le géant américain a installé un système d'enchères censé garantir une compétition plus juste et plus transparente entre les différents comparateurs. Si un site dépense plus qu'un autre, eh bien, il sera plus visible dans le moteur de recherche de Google. Le problème est que le groupe américain est jugé parti. C'est lui qui organise les enchères et surtout, il peut aussi y participer en mise en gros puisqu'il sait très bien que le produit des ventes lui reviendra. Au final, les concurrents de Google dépensent beaucoup d'argent pour pas grand-chose. La mobilisation s'organise. En effet, 165 sociétés dans 23 pays européens ont demandé à Bruxelles de taper plus fort sur la table pour lutter contre cet abus persistant de position dominante. L'exécutif européen doit mettre rapidement en place une réglementation plus efficace. Le temps presse. Certains acteurs de l'e-commerce européen n'ont pas les reins suffisamment solides pour supporter encore longtemps cette toute-puissance de Google.
Eric Mauban, et je vous rappelle que Sébastien Missoff, le directeur général de Google France, sera avec nous ce matin tout à l'heure. À 7h15, les marchés pour finir. Le CAC 40 dans le rouge hier soir, moins 1,52%. La flambée ne pouvait pas se prolonger indéfiniment. Quelques prises de bénéfices donc. Hier, après une envolée de l'indice de 10%, entre lundi et mercredi. Même tendance au repli à Francfort et à Londres. À Wall Street, le Dow Jones, moins 1,08%, 29 080 points. Le Nasdaq, moins 0,65%.